Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vogel Podcast, le podcast du cabinet Vogel et Vogel. Retrouvez-nous chaque mois pour tout savoir de l'actualité du droit économique. Disponible sur toutes les plateformes, notre conseil du mois décrypte l'actualité du droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation et du droit européen des affaires. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vogel-vogel.com. Bonne écoute! La repénalisation du droit de la concurrence, innovation géniale ou fausse bonne idée? L'usage de la voie pénale en vue de la mise en œuvre du droit de la concurrence semble obéir à des cycles. En 1986, la grande réforme du droit de la concurrence, intervenue avec l'ordonnance, avait clairement opté pour une dépénalisation du droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles des entreprises devaient alors être réprimées par des amendes administratives. Les sanctions pénales étaient quant à elles réservées aux personnes physiques ayant pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation et la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. En pratique, le recours aux poursuites pénales était limité aux ententes horizontales, considérées comme les plus graves, en particulier en matière de marché public. Ce mouvement de dépénalisation s'est étendu progressivement au droit des pratiques restrictives de concurrence et aux infractions à la transparence tarifaire. Les sanctions pénales, dont la mise en œuvre est apparue longue, complexe, peu efficiente, ont été largement remplacées par des sanctions administratives, plus faciles à appliquer. À rebours de cette évolution plus que trentenaire, un tournant récent dans la politique de l'autorité de la concurrence, en vue d'une repénalisation du droit des pratiques anticoncurrentielles, peut aujourd'hui être constaté. Ce changement a été annoncé et justifié publiquement par le rapporteur général en 2018 et ne s'est pas démenti depuis dans la pratique de l'autorité. Le procédé est simple. Le rapporteur général de l'autorité invoque l'article 40 du Code de procédure pénale en informant le parquet de pratiques anticoncurrentielles liées à d'autres délits, corruption, présentation de faux bilans, fraude fiscale, etc. Le procureur saisit alors un juge d'instruction qui lance des perquisitions auxquelles les avocats ne peuvent pas assister, charge des enquêteurs assistés d'un ou plusieurs rapporteurs de l'autorité d'entendre des témoins, à nouveau sans l'assistance d'avocats, contrairement à la procédure de concurrence ordinaire, et met en examen les personnes suspectées de pratiques anticoncurrentielles. Dans l'intervalle, une transaction combinée avec une convention judiciaire d'intérêt public pouvant atteindre des centaines de millions d'euros, peuvent être éventuellement proposés en vue d'éviter une double poursuite. En l'absence de transactions et de CGIP, les pièces et procès-verbaux récoltés dans le cadre de la procédure pénale peuvent être transmis à l'autorité de la concurrence afin qu'elle les utilise en vue de préparer une notification de grief contre les entreprises concernées, la procédure pénale suivant son cours. Dans un premier temps, certains observateurs ont pu considérer cette repénalisation comme une innovation géniale. L'un des arguments avancés est celui d'une plus grande efficacité de l'action de l'autorité, sans pour autant porter atteinte aux droits de la défense. Les partisans du recours à la procédure pénale la présentent ainsi. Elle permet de mutualiser les ressources et les compétences des différents services figurant sur la commission rogatoire, à savoir les rapporteurs de l'autorité et les officiers de police judiciaire, ce qui permet de mieux calibrer les effectifs lors des visites domiciliaires. La procédure pénale comporte également des moyens supplémentaires pour empêcher la dissimulation de preuves des pratiques anticoncurrentielles, comme les interceptions téléphoniques, la vidéosurveillance ou encore la garde à vue. Un autre argument est celui de l'apport du recours à la procédure pénale à la mise en lumière de la pratique. Le recours à la procédure pénale permet en effet d'éviter l'ensemble des garanties prévues par la procédure de concurrence de droit commun. Absence de recours immédiat devant un juge contre les perquisitions ou leur déroulement. Absence d'assistance d'un avocat lors des perquisitions et des auditions. Conception plus limitée qu'en droit commun de l'étendue du secret des correspondances, avocat-client, strictement restreinte aux droits de la défense. Usage de tous les moyens répressifs de l'enquête pénale. Épée de Damoclès résultant d'une possible mise en examen infamante, etc., etc. Deux arguments invitent à considérer que cette repénalisation n'est finalement qu'une fausse bonne idée. Le premier est celui d'une profonde fragilité, tant procédurale que de fond, de ce recours. Le recours à la procédure pénale générale, sans garantie importante des droits de la défense, alors qu'il existe en matière de visite et saisie de concurrence des garanties spécifiques au bénéfice des entreprises encourt le risque d'être qualifié de détournement de procédure. En outre, l'application de l'article L420-6 du Code de commerce aux personnes morales, alors que l'ordonnance de 1986 avait entendu la réserver aux seules personnes physiques, fait peser sur la tactique employée un risque de violation du principe de l'égalité des délits et des peines. Ce risque est d'autant plus important qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises que l'incrimination de l'article L420-6 ne s'appliquait pas aux personnes morales et que le législateur a expressément refusé toute application d'une responsabilité pénale pour infraction au droit de la concurrence aux personnes morales dans le cadre de la loi de 1994. Enfin, le fait même d'imaginer que l'article L420-6 pouvait être applicable aux personnes morales pose la question de la non-violation du non-cumul des principes, des poursuites et des sanctions. Enfin, le fait même d'imaginer que l'article L420-6 pourrait être applicable aux personnes morales pose la question de la violation du non-cumul des poursuites et des sanctions, eu égard à l'article L464-2 du Code de commerce, dès lors que les faits réprimés par les deux textes sont identiques, que les intérêts sociaux protégés sont similaires et que les sanctions encourues sont de même nature. Le second argument, plus fondamental encore, réside dans une incompatibilité de fond entre droit pénal et droit de la concurrence. L'utilisation du droit pénal pour sanctionner une infraction au droit de la concurrence s'expose, en l'état du droit pénal et des procédures pénales, à un risque d'inefficacité évident. Par essence, le droit pénal est très strict et impose des définitions d'infraction d'une extrême rigueur, dès lors qu'elles peuvent conduire à des peines d'emprisonnement et d'amende, souvent infamantes. Or, les infractions que l'autorité de la concurrence entend poursuivre par la voie pénale, comme les prix imposés, ne sont souvent pas définies de façon rigoureuse et précise. Bien au contraire, le standard de preuve des prix imposés n'est pas stabilisé et la Commission a elle-même reconnu dans une consultation lancée fin 2020 et un rapport d'évaluation que les conditions de qualification des prix imposés n'étaient pas claires. De même, le droit de la concurrence impose des décisions rapides qui paraissent incompatibles avec la lourdeur et la durée actuelle des procédures pénales. Un exemple, l'affaire du marché du chauffage de la Défense, vieille de 22 ans, toujours non jugée définitivement, alors que le plus vieux prévenu dans le dossier est aujourd'hui âgé de 100 ans. Ces poursuites sont dénuées de toute signification économique.